Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states.
Ah, il ne s'imaginait pas, George Bush, qu'il allait être samplé par Dr Paradox. Non, non, nous ne sommes toujours pas des terroristes. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous dans cette divergence numérique dont le numéro n'embarrait même plus en surtitre.
Ah oui, j'ai oublié le surtitre. Ma foi, j'étais surbooké, d'où mon oubli du surtitre. Reste à ce que je n'oublie pas mon sur... je sais pas quoi.
Il ignore.
Mon surligneur, exactement. On salue nos auditeurs du 103.3 et 102.0 de Radio Escapade, ainsi que les gens de 98.6 et 87.8 de Radio Larzac qui nous écoutent, comme de bien entendu, et que nous saluons bien bas.
Mais à rappeler que c'est la 166e quand même émission de cette saison 10 et la 20e de cette donc même saison.
Encore 500 et nous ferons une spéciale diabolisme dans Divergence Numérique. Il y aura sans doute d'ici là des logiciels libres spéciales entrées en communication avec Satan, où qu'il habite. On enchaîne sans plus de mauvais calembours avec le sommaire de 766e Divergence Numérique. Luc, Manu et Nico nous serviront la revue de presse de l'april, où il s'agira de voir ce qu'a dit Sud-Ouest, La Nouvelle République, PC Impact, Numérama, opensource.com, ZDNet ou encore Framablog. Et puis après, c'est Jean-François Ferry et Florian Henri qui sont déjà là avec nous d'ailleurs et que nous pouvons saluer aussi bien bas, il n'y a pas de raison. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui viendront nous parler, comme on l'avait déjà un petit peu évoqué le 28 février, je le disais tout à l'heure, le DevCamp d'Olibar qui a lieu, ça y est, c'est parti, ce week-end chez Kawenga.
À fond.
Voilà, vous êtes dans les starting blocks, vous avez dormi pendant 3 jours avant.
Une semaine.
Voilà, manger plein d'épinards et de trucs détoxifiants. Voilà. Car c'est vrai que rester des heures à coder tout un week-end avec les radiations des écrans et tout ça, après on a mal au ventre. Et le café, oui, peut-être le café n'y est pas pour rien non plus. Et puis c'est Jeanne Tadeuse ensuite qu'on aura au téléphone chargée des affaires publiques à l'april pour évoquer la pétition pour s'opposer à l'intégration des menottes numériques, les DRM, dans HTML5. Il faut aller signer sur defectivebydesigned.org. Et puis on parlera aussi avec elle de l'accord cadre Open Bar, Microsoft, La Défense, qui fait couler beaucoup d'encre. Un article est sorti hier dans le Canard Enchaîné qui laisse entendre que finalement ce serait l'OTAN qui aurait poussé pour que l'armée française s'équipe de logiciels Microsoft, histoire de pouvoir se faire espionner elle aussi. Enfin, on marche vraiment sur la tête, mais c'est pas la première fois, rassurez-vous. En fil musical, il faudra s'accrocher les poils des bras, Pascal.
Ça dépend du public qui va nous écouter. En tout cas, c'est un CD qu'on nous a fait parvenir et c'est le Chêne Creux qui nous a donc fait parvenir la dernière mouture de Atanor avec cet album de 19 titres. Vos cités sont des tombeaux.
Voilà, c'est sorti chez l'association toulousaine Les 39 Marches, qui fait penser à un film de Hitchcock d'espionnage un petit peu bizarre et tout.
En fait,
barré.
Le net label, c'est Le Chêne Creux, et ils ont eu l'aide de l'asso toulousaine Les 39 Marches pour cet album-là.
J'avais rien compris.
Voilà.
Peu importe, des fois je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, car nous allons nous éclaircir les idées avec la revue de presse de l'april.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 15, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a au sommaire, mon bon Manu?
On a une quinzaine d'articles en tout et 7 principaux. Donc, on va vous parler de Brocas, le Loir-et-Cher. On reparle de l'analyse sur l'Adopi et VLC. L'OEB qui nous reparle de brevets logiciels, quel bonheur. L'Upstream University, l'affaire des CRI. Et pour finir, un bel exemple de passage au libre pour un étudiant.
Sud-Ouest, Opération Libre a tenu ses promesses, un article de Jean-Marie Tinerage.
Donc, deux articles sur des actions locales de Gull.
Alors déjà, pour le premier, on parle de Brocas, donc une petite ville très connue, n'est-ce pas, qui est pas loin de...
Je sais pas, en Bretagne en tout cas.
Dans les Landes, donc. C'est à côté de Mont-de-Marsan, et donc absolument pas en Bretagne, mais il y avait des Bretons quand même.
Bah oui, des Bretons, des Alsaciens, parce que justement, il était question de faire de l'open data sur cette petite ville de quoi 1000 habitants. Ils ont fait un tour en ULM et ils ont cartographié, montré plein de choses et retravaillé la page Wikipédia du site.
Donc ça change un peu des très connus Install Party et autres qui étaient très réservés au milieu du geek. Et là, ça s'est ouvert à l'extérieur. Des gens sont venus, ça a permis de découvrir la région et aussi tout l'environnement open source et logiciel libre.
C'est le GUL Landinux qui a organisé ça. Si ma mémoire est bonne, ils avaient édité un guide, une sorte de catalogue du logiciel libre bien avant qu'on le fasse à l'April et qui avait eu beaucoup de succès aussi. On leur a tout piqué en fait.
Nouvelle République, acteur du futur numérique, un article de la rédaction. Donc là, on reste sur les actions locales et on est dans le
Loir-et-Cher, parce qu'il s'agit justement d'une opération Loir-et-Cher 2020 qui nous parle de Labs 41. Alors 41, peut-être pour le nom du département.
Ouais, ça doit être ça. Donc en fait, ils ont mis en place des groupes de travail, donc ils appellent ça des Labs 41. Donc ça tourne à peu près là, autour de l'open data, de la DOE et l'internet, le web et l'emploi, et les institutions et les logiciels libres. Donc c'est un peu dans la même optique que Broca, c'est d'ouvrir au grand public tout le monde informatique et numérique en général, et de faire des activités qui sortent un peu de l'ordinaire.
Voilà, donc là, c'est plus une opération officielle avec un département derrière et plusieurs modules, dont un qui est vraiment tourné logiciel libre. Donc c'est bien sympathique. Et en tout cas, c'est intéressant de voir qu'à l'échelle d'un département, il y ait comme ça une vraie politique par rapport au numérique et qui voit loin, hein, puisque 2020, c'est quand même un horizon qui n'est pas tout à côté. Ça montre qu'on peut se prendre par la main, et donc ça, c'est très beau.
VLC Blu-ray, voilà à quoi devait répondre à l'Adopi. Un entretien avec Marie Duponchel. On doit même dire maître Marie Duponchel puisqu'elle est avocate désormais.
Et oui, n'est-ce pas, hein, on l'a connue dans d'autres lieux au sein de l'April, parce qu'elle a travaillé avec nous. Et là,
elle était stagiaire.
Elle était stagiaire, donc elle a fait de bonnes classes, puisque là maintenant, elle est une référence pour parler des MTP, mesures techniques de protection.
Elle était stagiaire à VLC avant, donc elle connaît vraiment bien son sujet, et elle fait une thèse sur ces questions-là. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très pointu.
Mais pour le coup, justement, elle a l'air de descendre l'Adopi, la décision qu'elle a fournie.
Voilà, donc on en avait parlé la semaine dernière. L'Adopi a enfin répondu à la question que VLC avait posée à propos des protections des menottes numériques.
Il y a un an.
Il y a un an, voilà, donc ça a mis du temps. La réponse, c'est pas vraiment une réponse. Ça dit que oui, potentiellement, VLC a le droit d'être interopérable avec ce genre de logiciel, enfin de protection numérique. Par contre, bon, bah, faudra peut-être passer à la caisse. Peut-être qu'il faudra pas le faire en open source et en libre. Et puis en plus, de toute façon, c'était pas à eux de répondre à la question comme ça. Faut d'abord essayer de se prendre par la main et d'aller voir directement les fabricants et les constructeurs. Et potentiellement, si on se fait claquer la porte au nez, ce qui est à peu près sûr d'arriver, de reposer la question de manière plus officielle à l'Adopi, qui prendra peut-être des sanctions. Voilà, beaucoup de conditionnels, très peu d'actions.
Bon. Voilà, c'est en gros, prenez le chemin le plus long, le plus difficile et le plus coûteux, ne nous embêtez pas. Donc Maître Duponchel nous fait un décortiquage très pointu et très fouillé, donc c'est intéressant. C'est très clair dans la façon dont elle rédige ça. Il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est pas simple, mais elle a son franc-parler, donc ça fait plaisir.
Oui, moi je recommande d'aller jeter un œil. Il y a quelques avancées parce qu'en fait, l'Adopi a quand même laissé passer certains points, quelques informations. Alors certes, l'avis en entier était peut-être simplement mauvais, mais en se basant sur ces points, il y a moyen d'avancer, ce qui n'est pas si mal, notamment des choses. Un truc tout bête, il semblerait qu'on ait le droit de casser des MTP si jamais les dates de commercialisation sont intéressantes pour nous, c'est-à-dire si c'est lointain, si la sortie d'un film est lointaine par exemple, bah c'est moins grave de casser une mesure technique de protection. C'est ce qu'elle relève dans cet avis, ce qui est un peu bizarre de notre point de vue, mais bon.
Elle dit quand même que c'est stupide, mais voilà. Donc allez voir cet article, voilà, il vaut le détour et il vaut l'attention nécessaire pour s'accrocher à sa lecture.
Numérama, l'OEB distingue un brevet logiciel pour son prix de l'inventeur 2013, un article de Guillaume Champeau.
Le meilleur article de la semaine, au moins. Donc je commence tout de suite avec l'introduction qui est pas mal en tant que telle. Voilà. En principe, les brevets logiciels sont interdits en Europe. En pratique, l'Office européen des brevets en accorde régulièrement. Donc là, justement, il s'agit d'un brevet en particulier qui est super intéressant.
Donc c'est pas un brevet directement, en fait. C'est l'OEB qui a attribué un prix, le prix du meilleur inventeur européen 2013. Et elle a décerné ce prix à 4 chercheurs qui ont breveté un système de traduction. Donc c'est un pur brevet logiciel. Et donc l'OEB a rien trouvé de mieux que les déclarer meilleur inventeur 2013.
Opensource.com is training to become a better contributor, worth considering. C'est en anglais, hein. Une interview menée par Jen Wake de notre grand ami Loïc Deschary.
Estimé ami, et on appréciera ton accent anglais qui est tellement agréable.
C'est facile de critiquer, mais c'est beaucoup plus amusant de se moquer. Je constate que tu pratiques.
Oui. C'est toujours un plaisir, hein, c'est tellement facile. Donc, ça n'empêche, l'article est vraiment pas mal. Ça parle de Upstream Universities, qui est une initiative de notre cher Loïc, pour faire en sorte qu'il y ait plus de contributeurs au logiciel libre.
Donc en fait, c'est de prendre par la main des développeurs, des futurs contributeurs au logiciel libre, de leur donner un objectif. Donc ils vont choisir un sujet, et c'est vraiment pour faire des présentations, mettre en place toute la gestion de projet qui va autour, et puis aller implémenter la fonctionnalité ou la correction de bugs, et participer, et republier tout ça auprès des éditeurs originaux. Voilà, ils sont encadrés pour ça, c'est un peu l'équivalent du GSOC en version libre, on va dire, quoi. Donc Google Summer of Code, qui est le même principe financé par Google.
Donc plein de bonnes choses. On découvre un peu les fonctionnements. On pourrait croire que, par exemple, c'est facile de contribuer. Et oui, il le dit, c'est facile de contribuer. Mais il y a plein de blocages dans les entreprises qui sont idiots, hein, globalement, mais qui sont là culturellement depuis très longtemps. Donc justement, c'est une façon d'avancer et de profiter des gens qui sont déjà dans un projet et qui sont des experts, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que vos propres développeurs, si vous êtes dans une entreprise, soient chapeautés un petit peu par ces gourous. Donc il n'y a rien de tel pour bien travailler. Donc, puis il y a d'autres raisons qui font que c'est intéressant. Upstream University, je pense que c'est une bonne initiative qui va peut-être déplacer un petit peu ses habitudes et les changer, parce que voilà, on met en commun, eh bien on n'en retire que des avantages à court et moyen terme. Donc il faut aller dans cette direction.
ZDNet.fr, affaire des séries Wikipédia, le ministère de l'Intérieur dément toute menace. Un article de la rédaction. Donc on revient sur cette affaire là dont on parle depuis deux semaines ou une semaine, je sais plus. Donc hein, pour un petit rappel rapide des faits, il y a un article sur un truc de la Défense dans lequel il y a des informations qui ne devraient pas y être a priori. Et la DCRI, hein, qui est, je le rappelle, le mélange entre les renseignements généraux et la DGSE, a essayé d'intimider, enfin même a réussi à intimider un administrateur de Wikipédia. Et voilà, l'affaire a fait du bruit. Donc, dernier rebondissement.
Donc, les derniers rebondissements, donc déjà le ministère de l'Intérieur rejette toute notion de menace ou autre. Ils ont dit qu'à partir du moment où il y avait potentiellement une procédure judiciaire lancée derrière ça, et qu'en plus ça touchait à la sécurité nationale, il ne pouvait pas avoir de menace. Ils ont juste essayé de rectifier le tir. Donc apparemment, il y a une vidéo qui a été diffusée sur la télé, et qui avait, pendant une fraction de seconde, un boîtier un peu confidentiel qui aurait été aperçu. Et cette vidéo-là a été reprise par Wikipédia, et la DCRI aurait voulu masquer un peu tout ça et faire étouffer l'affaire. Bon, apparemment, ce qui est bizarre, c'est que la vidéo est toujours en ligne et qu'ils ont demandé à censurer Wikipédia.
Les gens de Wikipédia estiment que l'intimidation était bien là. Ils ne sont pas d'accord avec le ministère de l'Intérieur. Et ils rappellent qu'ils ont toujours été présents à chaque fois qu'ils ont été sollicités sur ces choses-là, que leur objectif, c'est de respecter la loi et qu'ils y mettent beaucoup d'énergie. Et du coup, ils n'apprécient pas trop cette affaire-là, et on les comprend. Framablog, du projet étudiant au navigateur web, la trajectoire d'un développeur open source. Une interview faite par Goofy. Donc, il s'agit de l'interview de David Roska, qui est donc un jeune développeur qui développe un navigateur web, rien de moins.
Voilà, il s'est lancé dans un truc qui paraît énorme, qui fait peur à tout le monde. Il l'a fait en suivant un petit peu ses bonnes idées. Donc, il a dû le refaire, hein, d'ailleurs, parce que le langage initialement choisi n'était pas forcément idéal. Mais il avance et son truc est en place depuis quelques années. Il a des contributeurs, ça a l'air d'être vraiment pas mal.
Et tout ça, en plus, c'est parti d'un projet un peu scolaire. Il s'est lancé dans l'idée de faire un navigateur quand il était encore en école. Et ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Et comme l'a dit Manu, il y a beaucoup de contributeurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner. Un navigateur qui s'aligne bien par rapport aux autres. Donc on verra bien ce que ça donne.
Donne le nom du navigateur.
C'est Kubzilla, donc quelque chose de très léger. Hein. C'est l'objectif de ce navigateur, c'est de faire quelque chose de super léger. Et qu'il reste, parce qu'on se souvient que Firefox, c'était un peu son mot d'ordre au début, et aujourd'hui, c'est effectivement devenu une grosse machine.
Oui, on reste très relatif, mais en tout cas, voilà. L'article est pas mal, allez jeter un œil si vous voulez voir le parcours qu'on peut pratiquer pour contribuer à du logiciel libre. Upstream University, c'était une façon de le voir, mais là, on le voit vraiment de manière humaine. On suit son parcours à lui, un étudiant qui continue à étudier par ailleurs et qui a fait quelque chose d'assez important.
Très bien, et ben merci à vous deux, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et merci à eux, merci à eux. On les retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. À présent, de la musique avec donc un arbre creux, un chêne en l'occurrence. Voilà, c'est un groupe qui a été formé en 92. C'était un groupe de collégiens, donc
92.
précoce, hein, précoce, les gars. Assez vite, il prend une forme d'inspiration très magmaïenne, Zeul, donc, pour ceux qui, les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas, Magma s'était emmené par le batteur Christian Vander qui faisait une espèce de free rock super dur. Il avait inventé sa propre langue et tout, et il y avait sa propre armée, la Zeulvort, etc. Enfin, c'est vraiment un truc de hippie sous acide. Et puis, ils ont sorti un premier album qui s'appelait Vulver, V-U-L-V apostrophe IR, quand même. Donc, on est vraiment dans Verroge, présent à univers, zéro, magma, etc. On écoute un extrait de cet album, un album avec des crânes, etc. Intitulé donc Atanor sous le nouveau nom, enfin, depuis que le groupe s'est reformé aux alentours des années 80, des années 2008, voilà. Et l'album s'appelle Vos cités sont en lambeaux. On en écoute le titre éponyme.
Sous les tombeaux.
Qui ouvre l'album et c'est sous licence, ma foi.
Creative Commons by SIND.
Merci Pascal. Vos cités sont en lambeaux, c'est le premier extrait de Atanor. Cette musique qui va nous accompagner, c'est quand même assez velu. Mais
vos cités sont des tombeaux.
Sont en lambeaux. Ouais, non, mais bon, c'est les lambeaux de la momie dans les tombeaux de la cité. Enfin, vous comprenez.
C'est vrai que la pochette fait un peu peur, hein, quand même.
Ça pourrait être du gore metal ou du trashcore ou du.
La musique aussi.
Du I'm gonna rape your grandma core. La musique. Non, c'est quand même assez pointu, hein, vous avez remarqué, le super niveau du batteur.
Mm-hmm. Alors le batteur, c'est Cédric Marcucci.
Et ben voilà, on peut l'applaudir.
Voilà.
Bravo.
Voilà, au sax ténor, on a Christophe Ayadi, Clémentine Poironneau au violon, Emmanuel Larmé au banjo, Fabien G. voix, violon et violoncelle, Henri Hertemann au piano, Ingrid Obled à la contrebasse, Jao Remso à la guitare, Kiono Moss à la voix, Laurent Rochelle à la clarinette basse, sax soprano, Loïc Fanning au violon, Masako Izimura à la voix, Natacha Brouha à la voix, Sarah Galli à la flûte et Silk Rodsroll au violoncelle. Voilà, j'ai cité toute l'équipe.
Un line-up super impressionnant. Je ne saurais trop vous conseiller, je fais une petite parenthèse, ils en parlaient dans la revue de presse, puis on va en parler aussi avec Jeanne Tadeuse tout à l'heure, d'aller acheter le canard enchaîné, effectivement, puisque il cite un responsable de l'armée qui disait « Ouais, non, mais par rapport à ce contrat, de toute façon, les USA n'ont pas besoin de ce contrat pour pénétrer nos systèmes informatiques. » Ah, putain, c'est la loose.
C'est rassurant.
C'est la loose totale, mes bons amis. En tout cas, qu'on vous conseille d'aller le lire. Voilà, je l'avais sous les yeux à l'instant.
Tout va bien.
À présent, on va parler de ce qui va se passer ici à Montpellier avec Jean-François Ferry et Florian Henry du DevCamp d'Olibar. Donc, on rappelle, un DevCamp, c'est l'occasion de réunir des gens qui travaillent sur le même projet, qu'ils soient, j'imagine, professionnels du secteur ou contributeurs comme ça, etc., pour mettre un coup de boons au projet. Et c'est bien ça.
C'est ça, complètement.
C'est exactement ça.
On va être du vendredi 17h jusqu'au dimanche 17h, donc en gros 48h à Kawenga, donc à Montpellier, l'arrêt de tram Louis Blanc, pour faire avancer le projet, intégrer des fonctionnalités manquantes en vue de la sortie de la version 3.4 qui sera gelée après ce DevCamp.
Voilà, puisque la version 3.3 vient elle de sortir, ça fera d'ailleurs l'objet d'une... On va dire une présentation de ce qui a été corrigé pour cette version-là.
Oui, mais après, il y a eu un petit peu de retard, je crois, dans la roadmap.
Ouais. Mais suite justement à l'organisation du DevCamp, le chef de projet technique a décidé de retarder le gel de la version en cours de développement qui est la 3.4, puisqu'on va profiter du tumulte de développeurs qu'on va être pour pouvoir améliorer, et fignoler, et corriger les derniers petits bugs. Alors quand on dit qu'on va la geler, ça ne veut pas dire qu'elle va sortir tout de suite. Ça veut dire qu'on va d'abord la mettre en bêta. Autrement dit, ceux qui veulent tester ont le droit de tester. Il n'y aura plus de grosses modifications qui forceront à tout réinstaller dès le début, mais qu'il peut y avoir encore quelques anomalies. Donc voilà, on va avoir une version 3.4 en bêta qui va vraisemblablement passer en version officielle en janvier, février. Du coup, avec le retard qu'on a pris, normalement, elle aurait dû être officialisée bêta en mars. Et suite au DevCamp, du coup, on prolonge un peu la phase de développement.
Mmh. Et parce qu'il faut tester.
Oui.
Parce qu'on a fait beaucoup de choses, enfin il y a eu beaucoup de choses, voilà. On était beaucoup à bosser quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été intégrées dans la version 3.4, même si la 3.3 est sortie récemment. Et donc on a besoin de testeurs pour ça.
Et justement, ça démarrera notamment après l'arrivée et l'installation des participants à partir de 14h. Ce sera de 4h30 à 5h30 que justement, Florian, tu feras un retour d'expérience utilisateur qui sera une espèce de super retour.
Alors, j'ai pas la prétention d'avoir la connaissance de tous les utilisateurs de Libar, mais je m'appuie simplement sur quelques personnes. Entreprises qui ont décidé d'implémenter Dolibar comme logiciel principal de gestion d'informations au sein de leur société. Et du coup, l'idée, ça va être effectivement moi d'une part, d'autres intégrateurs qui seront présents aussi au DevCamp qui vont pouvoir faire leur retour en fonction de leurs clients. Et on va avoir l'intervention de Franck Moreau de la société Cargo Hub qui va effectivement raconter pourquoi lui il a choisi Dolibar, comment est-ce qu'il l'utilise, pour dire que Dolibar, c'est pas réservé qu'aux TPE, aux PME. Cargo Hub, c'est une holding. Il y a 53 sociétés filiales. Ils sont répartis sur les 5 continents. Ils ont mis Dolibar partout. Et ça fonctionne.
Voilà. D'accord. Donc, super exemple.
Voilà, c'est un joli cas d'école. Ouais.
Voilà, qui peut motiver aussi les gens qui sont là à en parler aux autres en disant « Ouais, les gars, c'était super, il faut venir. »
Voilà.
Et donc, tu parlais de 48 heures, c'est 48 heures non-stop, c'est-à-dire jour-nuit.
Pas dormir, pas manger, pas boire.
On dormira un peu, mais pas longtemps.
Voilà. Non-stop, voilà. On s'arrête pas.
C'est-à-dire que si à un moment plus personne n'est présent parce que tout le monde est complètement crevé, peut-être qu'on fermera les portes une demi-heure histoire de leur laisser le temps de souffler. Mais le reste du temps, non, on sera là et on va effectivement travailler beaucoup sur Doliba.
Non, ouais, l'événement est ouvert au public, tout le monde, que ce soit utilisateur ou simple curieux. Il y aura des postes en libre accès d'ailleurs, on a vu ça ce matin, pour les personnes qui veulent tester le logiciel tout simplement.
Donc, même si c'est un rendez-vous des gens qui sont au cœur du projet Doliba et qui vont faire du travail super sérieux, ça ne veut pas dire que c'est fermé au public.
Ah non, fermé, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire, voyons. non, on reste open là-dessus.
On fait du didactisme.
même si l'objectif, c'est quand même de coder et d'avancer sur le projet.
Mm-hmm. La manière dont on imagine ça, c'est-à-dire que la journée, c'est un peu le principe de porte ouverte, on continue, il y a des petits groupes qui vont travailler sur des sujets, mais il y a toujours une ouverture vers le public, vers les gens qui ont envie de comprendre, de connaître, et puis de faire des retours aussi. Par contre, effectivement, la nuit, je pense qu'à partir de 21h, non, là, les locaux ne seront plus forcément ouverts au public, ou peut-être exceptionnellement, mais il n'y a pas vocation à ce que les gens viennent toute la nuit faire la bringue avec nous, c'est pas le but.
Ou alors pas les mains vides.
Voilà.
La bringue du code.
La bringue du code, oui.
Le beer to beer.
Beer to beer.
Faire des séances beer to beer.
Alors voilà, je ne peux pas alors rebondir sur ce truc sans rappeler François Pellegrini, le grand François Pellegrini qui a suffisamment souvent démontré et prouvé de façon fort scientifique l'importance de la catalyse alcoolique. C'est son terme. Hein. C'est lui qui n'a pas mis un brevet sur le terme ni le droit d'auteur. Mais il parle souvent, justement, ça fait partie des rencontres mondiales du logiciel libre. C'est que les gens finalement qui sont souvent des gens super sérieux, quand ils se retrouvent comme ça ponctuellement une fois tous les deux ans pour travailler ensemble, etc., forcément ça devient festif, et forcément le laisser aller qu'il peut y avoir en soirée amène lui aussi des choses qui jamais ne seraient arrivées sur une réunion IRC.
C'est ça qui est bon.
C'est pour ça que les gens ont besoin de se rencontrer aussi.
C'était effectivement tout le but de cette manifestation, c'était de se rencontrer physiquement et puis d'avoir une synergie, une osmose quoi, qui se crée entre nous, dans laquelle on peut chacun, quand on rentre après cet événement, se rappeler, tiens, j'ai discuté de ça avec lui, on a bien rigolé sur ce sujet-là qui était plus ou moins sérieux, mais finalement peut-être qu'on peut vraiment mettre quelque chose en œuvre et puis tiens, je vais le rappeler, et voilà, on va construire quelque chose à partir de ça.
Mm-hmm. Alors. Oui, on peut peut-être rappeler ce qu'est Dolibar. Parce que
nous allons y venir, mon ami Pascal. C'est vrai qu'on fait ça sans filet, etc. Voilà, on n'a pas des conducteurs super précis. Mais vu qu'on a un petit peu de temps quand même, et puis aussi de la musique, on va avant de revenir justement après une petite pause musicale, on dira aux gens qu'est-ce que c'est Dolibar, même si on peut d'ores et déjà dire que c'est un ERP ou un CRM. Enfin, c'est un logiciel qui fait tout chez vous. Les systèmes d'information, la facturation, le calendrier, les agendas, même les boîtes mail ou... Enfin bon, il peut s'interfacer avec plein de trucs. Mais avant justement de présenter ça, on précise que ce sera aussi l'occasion samedi de 10h30 à 13h de faire l'assemblée générale de l'association. Ouais. Ça veut dire qu'il y a aussi une association qui soutient, qui accompagne le projet.
C'est complètement ça. D'ailleurs, c'est même l'association qui est porteuse de l'organisation de ce DevCamp. Derrière l'association, il y a un petit écosystème qui se met en place avec Dolibar, c'est-à-dire qu'on a une place de marché pour de la vente de modules que des prestataires ont fait soit avec des commandes clients ou de leur plein gré. Donc c'est l'association qui gère ses fonds et la redistribution derrière et organise donc avec ses fonds des événements tels que le DevCamp. Mmh.
Pascal ?
Contributeur, c'est pas forcément c'est tout le monde qui a développé quelque chose dans Dolibar.
Tout à fait. Ouais. Il y a de fait des indépendants, des entreprises qui contribuent au logiciel, mais on a aussi des particuliers, je pense.
Étudiants, toutes sortes de
publics. Dolibar est beaucoup utilisé en association, donc on a plein de bénévoles qui envoient un peu de code, bien sûr.
Tout à fait. Et donc cet aspect modulaire de Dolibar qui permet de compléter, d'améliorer des aspects fonctionnels de l'ERP, sont disponibles sur Dolistore, sur lequel il y a des modules payants ou gratuits, sachant que la politique veut que ce soit des modules sous licence libre.
sous licence libre. Alors là aussi, il y a quelque part l'invention d'un modèle économique pour un projet comme Dolibar, etc. J'imagine que vous êtes inspiré de ce qui peut se faire ailleurs. Je sais qu'on avait un petit peu trollé, discuté l'autre fois, justement, est-ce qu'il y a un hiatus dans le fait que les sources des modules payants soient accessibles qu'une fois qu'on les a payés, ou etc. Bon, après, ça revient justement à troller, à mon sens, parce qu'il faut quand même trouver des ressources pour faire vivre le projet.
Ah bah, les développeurs, malgré des idées reçues, on ne mange pas que des pizzas non plus, ni des biscuits apéro. Après, Dolistore, Florian parlait de dolistore.com, sur les ventes qui sont faites sur Dolistore, il y a 20% qui vont à l'association. Donc ça, c'est tout le monde est au courant, a priori pas trop, parce que j'ai une remarque comme quoi un utilisateur ne le savait pas. Donc ça, c'est l'association aussi de gérer la communication, on va en parler pour le DevCamp. Mais oui, on essaye de faire un modèle économique, d'apporter les ressources aussi bien logicielles, parce qu'on a une forge de développement avec du guide, de la messagerie instantanée, tous les outils qui vont bien pour travailler. Voilà, c'est ça le but de cette association, quoi.
Donc Dolibar pour les nuls, on y vient juste après une petite pause musicale, toujours avec Atanor, et vos cités sont des tombeaux et non pas en lambeaux, comme je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure à tort. On écoute le deuxième titre qui nous ramène au fond des mers avec Poséidon.
Thank you.
Atanor, sors de ce corps, Atanor. C'est voilà, extrait toujours de Vos cités sont en lambeaux, c'était Poséidon.
Vos cités sont des tombeaux. Oh,
j'y arrive pas. Je vais lui envoyer un mail. Échange le titre de l'album parce que je trouve que c'est vachement mieux.
Tu viens de forquer le titre.
Ouais, voilà, je viens de forquer le titre. D'ailleurs, tout comme on peut lire une invitation au fork sur le site de Dolibar. Bail SCSA pour la licence de ce titre.
SCSA, oui.
Et puis donc on revient justement, forquez-moi sur GitHub, peut-on lire en bandeau sur la gauche sur dolibar.fr. Un logiciel libre de gestion. Mais alors gestion, c'est vraiment le truc qui déchire, le management en anglais. Gestion, ça veut tout et tout dire. On peut faire de la gestion comptable, on peut faire de la gestion de ressources humaines.
Comptable.
Ressources humaines moyen encore.
Moyen encore. Voilà, donc
tu peux gérer tes congés de salariés.
Oui, tout à fait. 3-3, je crois.
Oui, 3-3.
Ouais.
Voilà, donc pour préciser, c'est un logiciel qui peut, on va dire, tout faire. Et ce qu'il ne fait pas, il peut le faire avec ses petits camarades logiciels libres, si possible.
Oui.
Ça, on va dire, les grands champs d'activité pour une entreprise, que ce soit une entreprise à employé unique ou que ce soit, comme tu le disais, sur le retour d'expérience qui sera fait par Cargo Hub, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
Ça peut revêtir toutes les fonctionnalités d'une entreprise, en quelque sorte.
Bah, dans la version standard, donc celle qu'on peut télécharger sur le site, c'est vrai que ça couvre en majorité les besoins d'une entreprise, à savoir la gestion d'un fichier client, qui est quand même important, les devis, les commandes, les factures. L'agenda, on peut prendre des rendez-vous, on peut fixer des rendez-vous aux clients, des comptes attachés, des contacts. L'avantage, c'est d'avoir dans une seule interface et à un endroit les ressources de l'entreprise, quoi.
Les données, parce que
les données.
Souvent le problème dans les toutes petites entreprises. Hein, je suis artisan, ma femme prend les rendez-vous et fait la compta. Alors j'utilise un tableur pour faire mes factures, j'utilise un traitement de texte pour écrire mes lettres.
C'est ça. Je
copie-colle à tour de bras le nom et l'adresse du client parce que je sais pas faire des modèles de documents
fais des factures avec la même référence, il faut se souvenir,
ou alors je les numérote moi à la main avec toutes les erreurs que ça peut engendrer et le temps que ça fait de toute façon perdre. Ça c'est déjà une possibilité d'automatiser tout ça, on va dire on va saisir le nom du client une seule fois et puis après chaque fois qu'on va lui faire envoyer une facture, le modèle de facture sera déjà prévu,
c'est exactement ça,
et le document sera généré tout seul.
C'est ça, on a tout un système qui automatise, un ERP c'est fait pour automatiser des tâches qui peuvent être faites informatiquement, donc c'est genre un exemple, quand on va créer une commande, plutôt un devis, on peut dire si ce devis est validé, donc à facturer ou clôturer, c'est-à-dire annulé par le client, enfin refusé, et on peut paramétrer le logiciel pour qu'il crée un bon de commande automatiquement à partir du devis lorsqu'on le met à facturer.
Voilà.
Et après, à partir de la commande, on peut créer une facture automatiquement également. Quand la facture est marquée comme payée, on peut clôturer le bon de commande également. Enfin, c'est tout un tas de clics qui peuvent être réduits à 2 secondes, quoi, du temps informatique.
C'est le magnifique module workflow, ça. Hein.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle du workflow. Ouais.
Et pareil, au niveau de la gestion d'un agenda, on peut transformer un rendez-vous en devis, c'est-à-dire récupérer tout le temps, j'ai rendez-vous avec monsieur Dumas pour tel truc, tel jour.
Alors ça joue plus le rôle d'outil de saisie de notes et de rassembler les données, c'est-à-dire que dans le logiciel, on verra qu'on a le rendez-vous, on peut mettre, il y a un champ texte, une description, donc on peut mettre l'objet du rendez-vous. Éventuellement, après, on peut reprendre ce rendez-vous pour mettre le compte-rendu du rendez-vous. Et après, ça peut très bien, être passé au service commercial pour faire une commande, un devis, etc. Mais ça se fait pas en un clic, il faut quand même faire un petit peu de copier-coller quand même.
Il faut un peu travailler quand même.
Bon, l'intérêt, c'est qu'on a juste besoin d'un navigateur.
C'est ça, c'est exactement ça. L'autre intérêt, c'est donc on peut l'installer, il y a des versions qui sont faites pour l'installer sur le poste, ce qu'on appelle en local. Vous téléchargez une version du logiciel et ça installe tout le nécessaire pour mettre sur l'ordinateur pour que ça fonctionne. Ce qui est une solution, ça fonctionne, mais on aura du mal, par exemple, à envoyer des mails, parce que dans Dolibar, on peut envoyer d'un petit clic en reprenant l'adresse qu'on a définie déjà sur la fiche du contact.
La facture en pièces jointes.
Voilà, on a un petit bouton qui dit envoyer par mail, et on peut rajouter le texte, le PDF est attaché automatiquement. Et donc, la meilleure solution, c'est de le mettre sur un hébergement. Donc ça, des hébergeurs, il y en a un paquet, je pense.
Il y en a certains qui sont spécialisés sur Dolibar. Aussi. Et puis, il y a des hébergeurs génériques sur lesquels il suffit d'avoir 2-3 éléments techniques qui permettent d'installer ce type de logiciel.
Et grâce à ce moyen, on a juste un navigateur pour accéder aux données de l'entreprise.
Et ce, de partout.
Et de partout. Donc, d'un téléphone aussi, ça fonctionne. Les tablettes, ça fonctionne aussi. Donc voilà, ça déporte. L'avantage, c'est que si un PC tombe par terre et que le disque il casse, on prend celui du voisin, on peut quand même travailler, quoi.
Alors, dès qu'on a des outils comme ça qui sont délocalisés, qui sont à l'extérieur et auxquels on accède à travers un navigateur Internet, forcément, on se pose la question de la sécurité et de la confidentialité des données. Donc, j'imagine qu'il y a de l'inscription, HTTPS, tralala. Et puis, ça marche sur tous les navigateurs dans les mêmes conditions de sécurité. Je pense au navigateur de Microsoft, évidemment, qui a une réputation tellement scabreuse en matière de sécurité que...
Alors déjà, il y a des procédures qui sont mises en place dans le logiciel. Il y a une méthode même qui permet de chiffrer, une option qui permet de chiffrer les données dans la base de données. Donc ça n'a rien à voir avec le navigateur. Après, on n'est pas pour les outils propriétaires, donc on ne va pas recommander Internet Explorer pour Dolibar, comme tout le web d'ailleurs. Mais on essaye bien sûr d'être compatible. De toute façon, on essaye au maximum de respecter les normes de développement. Et on espère que ça découle de la compatibilité dans tous les navigateurs, quoi.
Effectivement, oui, la connexion en HTTPS avec Dolibar est prévue, oui.
Voilà, parce que c'est vrai que de plus en plus, pour des questions de simplification, effectivement, on a tendance à externaliser certains services sur des machines qui sont loin, sur lesquelles on se connecte à distance à travers souvent un navigateur, voire même tout le temps. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur aux gens qui se posent la question d'adopter Dolibar s'ils ont une entreprise qu'eux considèrent comme étant sensible, ou etc.
Ce n'est pas valable uniquement pour Dolibar. Je pense qu'un logiciel de gestion, c'est un peu l'épine dorsale d'une entreprise. Oui, c'est évident qu'il faut se poser la question de la sécurité des données, que ce soit stocké dans le cloud.
Voilà.
Oui, c'est évident. Il faut se poser des questions sur les contrats des données hébergées aux États-Unis, par exemple. Il y a des gros éditeurs, on taira le nom, des gros éditeurs qui mettent clairement dans les conditions d'utilisation que les données seront réutilisées à des fins statistiques. Donc ça, pour une entreprise, il faut lire les contrats. Voilà.
C'est-à-dire que si on accède à la base de données qui est derrière Dolibar, on peut très facilement récupérer un fichier client. Quoi.
Alors après, il faut aussi... voir à quel prestataire on confie. Parce que tu parlais du SSL, mais ça dépend de l'hébergeur. Si l'hébergeur ne propose
tout
pas de SSL, il y aura un manquement au niveau de la sécurité. Si, on peut imaginer pour une grande entreprise de mettre des VPN, des solutions d'accès, tout est possible.
Dolibar sur le réseau local accessible par VPN. Donc c'est une solution informatique comme une autre. Quand on parle du fait de mettre ses données ailleurs, quand on a un compte Gmail ou un compte Hotmail, c'est la même problématique. Les mails, ils ne sont pas à la maison, ils sont hébergés par d'autres. Donc on est sur le même ordre de sécurité. Il faut faire attention chez qui on place nos billes et s'assurer que les canaux de communication qu'il y a entre moi et mes données, ils sont sécurisés. Sur l'accès à la base de données en direct par la suite, oui, mais ça, c'est le hack de n'importe quel logiciel. Quand on arrive,
personne n'est à l'abri.
Voilà. Après, Dolibar est protégé contre le SQL injection, le CSS injection, il y a des trucs qui sont faits pour que hacker Dolibar, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est pas à la portée de tout le monde.
Il y a une démo en ligne pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble, etc. C'est sur Dolibar. Dolibar, c'est dolibar2r.fr. On va vous remercier. On va vous souhaiter un super DevCamp, de bien travailler, de survivre aussi à cette épreuve, car nous l'avons dit, c'est une épreuve physique pour des questions de catalyse alcaloïde. on se fera peut-être l'écho le temps que vous digériez, puisque la fin de ce DevCamp va être consacré aussi à documenter tout ce qui aura été fait durant le DevCamp. Ça, c'est pas la tâche la plus sexy, mais en tout cas il faut le faire. Et puis on vous dit à très bientôt sur les ondes de Divergence.
Merci Divergence.
On enchaîne avant de retrouver Jeanne Tadeuse. On a encore le temps, on va écouter 3 minutes 26 du cinquième extrait de cet album de Atanor. Ça s'appelle Flux et Reflux. We'll be right back. Et vous aurez reconnu une flûte aussi, une flûte traversière. Nous entendons dans ce magma sonore, magma, donc influence directe, vous l'aurez reconnu au chant un petit peu comme ça, un petit peu barré. C'est Atanor qui nous accompagne. On ne pourra pas l'écouter en entrée, car nous avons en dessert Jeanne Tadeuse de l'April qui va nous entretenir de deux sujets plutôt brûlants, à savoir la pétition anti-DRM mariage malsain avec le HTML5, donc pétition en direction du W3C, et puis de l'accord Open Bar Microsoft La Défense. On rappelle que le DevCamp d'Olibar se tient à Kawenga du 19 au 21 avril. Tous les renseignements sont aussi dispo sur kawenga.org. Bien évidemment, Jeanne Tadeuse est la chargée des affaires publiques à l'April. Elle est avec nous au téléphone.
Nous sommes avec Jeanne Tadeuse de l'April. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Alors, tu t'occupes des affaires publiques, comme on dit. On a deux sujets à aborder avec ce rendez-vous avec l'April. On va commencer par la pétition qui s'oppose à l'intégration des menottes numériques, les fameux DRM, dans le nouveau HTML, HTML5, qui a déjà recueilli plus de 11 000 signatures avec un objectif à 50 000 avant le 3 mai, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Alors en fait, ce dont on parle quand on parle de cette pétition, c'est une pétition qui est lancée vers le W3C, donc qui est l'organisme qui s'occupe de la standardisation sur Internet. Donc en fait, le HTML5, c'est la nouvelle, on va dire, gamme de standards pour tout ce qui est pour le web. Donc on parle déjà d'HTML5 sur les questions de vidéo, etc. et tout. Enfin, sur les questions de vidéo, par exemple, quand on regarde des vidéos sur certains sites, on a de nouveaux... de nouvelles possibilités qui sont ouvertes par ce type de format. Mmh. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a eu une demande par un certain nombre d'acteurs de l'Internet. Alors il y a de mémoire notamment Netflix, mais aussi Google, Microsoft et d'autres, d'avoir finalement un moyen standardisé de mettre en place des DRM, donc des menottes numériques, dans tous les événements médias du HTML5, donc du nouveau HTML. Donc finalement, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on est dans une idée qui est complètement contraire au principe de base du W3C, qui demandait, le W3C, l'idée, vraiment, c'est d'assurer à la fois un Internet qui soit ouvert, qui soit libre, et qui laisse les possibilités, qui laisse l'utilisateur libre de ce qu'il fait. Là, ce qu'on a aujourd'hui, au contraire, c'est une forme de contrôle complet qui revient sur les usages de chacun. C'est contraire à la philosophie d'Internet, c'est contraire à la philosophie de W3C, et donc ça représente un clair danger. C'est pour ça que la Free Software Foundation et d'autres, et l'April aussi entre autres, donc, ont fait une pétition pour demander de ne pas accepter la mise en place de ce type de format dans le nouvel HTML5.
Pour ceux qui se posent encore la question, on rappelle que dans la très longue histoire des coquilles et des failles de sécurité du navigateur de Microsoft, non content de lui reprocher, on va dire, d'être vendu avec le système d'exploitation, ce qui avait déjà valu pas mal de millions d'euros d'amende à Microsoft, il y avait toujours ce truc finalement le W3C est là pour garantir, comme tu le disais, on va dire, un accès équitable partout dans le monde au travers justement de la normalisation d'un langage Internet, le HTML, qui permet, avec la version 5, de tout faire, y compris le multimédia, etc. Et donc de garantir que les gens ne sont pas captifs d'une technologie. Là, on pense notamment à Flash, pour tout ce qui est vidéo, etc. Et l'histoire d'Internet Explorer est parsemée de non-compatibilité avec ces règles édictées par cet organisme, le W3C. Donc Microsoft traîne derrière lui une longue histoire déjà de non-conformité, on va dire, avec ces règles-là. Et là, si je comprends bien, ce qu'il faut craindre, c'est que finalement, ce soit l'esprit des lois qui soit perverti quelque part avec l'introduction de choses fermées dans quelque chose qui se voudrait ouvert, comme le HTML5.
Tout à fait. Et là, ce qu'on voit vraiment avec la volonté de mise en place de ces nouveaux DRM, c'est la suite de tout ce qu'on a pu voir avec des technologies, effectivement, comme tu mentionnes, comme Flash, qui ne sont pas forcément lisibles sur toutes les plateformes. Des choses aussi, comme on a vu avec Silverlight de Microsoft, qui était lisible qu'avec des logiciels Microsoft. Mais plus généralement, on a cette stratégie d'enfermement très présente parmi certaines industries dites culturelles qui veut en fait pouvoir contrôler la totalité de ce que font les utilisateurs et donc de verrouiller au maximum tout ce qui est numérique parce que finalement elle n'accepte pas ce que Internet et le web permettent aujourd'hui.
Voilà, il faut aller sur defectivebydesign.org si je ne me trompe pas. On peut juste regretter qu'elle soit qu'en anglais cette pétition.
Oui, tout à fait, mais après il faut voir que la pétition est quand même lancée pour à l'adresse du W3C qui est un organisme basé aux États-Unis, d'où l'explication. Mmh. Et je précise d'ailleurs que la pétition est aussi traduite en français sur le site de l'April.
Ah bah voilà.
Pour ceux qui veulent la lire en français d'abord.
Tout à fait. Et puis, donc, le gros morceau, c'est, on va dire, on en avait déjà abondamment parlé, ça a été évoqué dans la revue de presse, c'est l'open bar Microsoft Ministère de la Défense. Le Canard Enchaîné, tu me disais à l'instant, a sorti un article là-dessus. Peut-être rappeler un petit peu le point de départ de cette affaire qui a tendance à en devenir une.
Le point de départ, le principe de cette affaire, c'est qu'en ce moment, on a la renégociation d'un contrat entre donc Microsoft et le ministère de la Défense, donc un contrat dit open bar parce qu'en fait c'est un contrat qui permet moyennant un prix forfaitaire d'avoir un droit d'usage quasi illimité sur un certain nombre de logiciels Microsoft. Mmh. Donc c'est déjà un contrat qui avait été qui avait été passé en 2009, qui avait déjà posé problème à l'époque. On avait notamment une question parlementaire, un certain nombre d'interrogations qui avaient été soulevées. Et donc, comme le contrat arrive à expiration eh bien, le mois prochain, a priori, on a des négociations visiblement actuellement en cours pour le renouvellement, donc entre le ministère de la Défense et Microsoft. Alors, le gros problème qui se passe, c'est que déjà, le contrat est négocié sans qu'il n'y ait aucune mise en concurrence, aucune publicité, donc c'est dans la transparence la plus absolue, et on n'a pas eu de possibilité simplement pour d'autres acteurs de proposer d'autres solutions, ce qui pose quand même bien évidemment un problème en termes de marché public. Mais aussi, et c'est ce que montre le dernier article du Canard, c'est que déjà en 2009, on avait des à la fois la commission des marchés publics de l'État et le groupe de travail en interne qui s'était prononcé contre la mise en place de ce type de contrat en expliquant que ça représentait des dangers importants pour la sécurité nationale et malgré tout ce contrat avait été passé et en plus il se pourrait d'être renouvelé. Donc on a visiblement beaucoup de gros problèmes. Mmh. Donc à la fois en termes de sécurité, en termes de respect des marchés publics, et en plus une opacité complète du dossier, c'est-à-dire que c'est parce que la presse sort aujourd'hui, et d'autres, on s'avait sorti déjà il y a quelques semaines, d'autres documents, qu'on est simplement au courant que ce type de contrat existe. Donc on est vraiment dans l'opacité la plus totale, et avec tous les dangers que ça représente.
C'est doublement surprenant quand on sait que c'est notamment au travers de la gendarmerie nationale que les premiers pas, on va dire, vers une utilisation rationnelle des outils informatiques ont été réalisés en France. La directive ERO, rappelons-le, enjoint, on va dire, le plus grand nombre d'acteurs possibles à se poser la bonne question et à faire le bon choix. Donc là, on va encore doublement à rebours de la tendance énoncée.
Absolument. Et en plus, ce qu'il faut voir et qui est quand même particulièrement surprenant, d'après ce qu'explique le Canard, c'est que ce serait pour des questions, ce serait l'OTAN finalement qui aurait poussé à l'acceptation de solutions Microsoft au sein du ministère de la Défense. Donc on ne peut que s'interroger sur l'immixtion de cet organisme dans la défense nationale qui est pourtant en plus un domaine particulièrement sensible et important.
Est-ce qu'il faudrait en déduire sous forme de scénario, de roman, d'anticipation que finalement le code source des outils Microsoft, c'est Microsoft qui l'a et puis la NSA à titre gracieux?
Ah ben, on sait déjà que la loi américaine exige de toutes les entreprises donc américaines, donc Microsoft, entre autres, que la NSA puisse introduire des portes dérobées, donc des backdoors, dans leur logiciel. Donc on sait qu'il existe des backdoors de la NSA dans ces logiciels, et finalement on a pas moyen de faire grand-chose contre eux. Alors qu'à l'inverse, on serait en logiciel libre, on pourrait au moins contrôler et modifier, pourquoi pas, pour s'assurer que le logiciel ne fournit pas d'informations particulièrement confidentielles à d'autres acteurs. ou simplement on ne sait même pas à qui.
À la connaissance de l'April, est-ce que certains acteurs de l'armée française, je pense à notamment des techniciens, des informaticiens, personne n'a soulevé le problème, on va dire, d'indépendance technologique que ça soulève ?
Alors, d'après les différents articles, il semblerait qu'en interne, dans des commissions internes ou autres, la question soit posée. Après, bien évidemment, le ministère n'est visiblement pas disposé à communiquer sur le sujet.
La grande muette.
Mais, en tout cas, visiblement, l'affaire sort, il y a des documents qui sortent. Donc, on peut au moins imaginer qu'il y ait un certain nombre d'inquiétudes présentes auprès de personnes en interne, puisqu'on a des documents qui sortent comme ça aujourd'hui.
Donc on restera à l'écoute, et on restera tout particulièrement à l'écoute ce 21 avril sur France 5 dans le 20-20h, puisque ce sera consacré à cet accord cadre Open Bar Microsoft La Défense, et tu participeras à ce débat. Qui sera présent lors de cette émission ?
Alors, donc dans cette émission, je serai présente, et il y aura également Bernard Carillon, donc ancien député UMP, qui avait été très en pointe sur la question, donc en 2009-2010, lors de la signature du premier contrat.
D'accord. Pas de représentant de la grande muette ou de Microsoft
Pas que je sache, on pourra toujours le demander auprès de l'équipe de l'émission de la 20h, mais il est fort possible que l'armée n'ait pas forcément envie de discuter des sujets.
Très bien, Jeanne, merci beaucoup. On rappelle aussi que je crois que ce sera le 4 mai, si ma mémoire est bonne, ce sera la journée anti-DRM partout sur la planète bleue.
Le 3 mai.
Le 3 mai, oui.
Ça a été avancé d'un jour par rapport à l'an dernier, mais oui, le 3 mai sera la journée contre le DRM. D'où l'importance de la mobilisation sur la pétition W3C.
Et voilà, c'était Jeanne Tadeuse de l'April pour refermer en compagnie d'Atanor qui nous accompagne. Vos cités sont des tombeaux. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé.
Bon.
C'était le film musical du jour. Vite fait, 10 secondes pour donner un rendez-vous. Montpellier Libre, Pascal.
Oui, la semaine prochaine, donc le 26, vendredi 26, à partir de l'après-midi, et puis à partir de 19h, ce sera les rendez-vous du Libre à la maison Mélina Mercouri à Montpellier, rue de la Vieille Poste.
agendadulibre.org. Pour le reste, on vous souhaite d'ici là une excellente semaine à l'écoute des programmes de Divergence, et restez libre.
Restez libre, à la semaine prochaine.